La semaine passée, on a eu l'introduction de la nouvelle série sur laquelle on se lance. Je peux pas garantir là, mais au moins jusqu'à décembre. On va y aller semaine après semaine. On va voir comment est-ce que le Seigneur va diriger. On va voir les sujets, les questions qui vont être soulevées par rapport aux éléments qu'on va voir au courant des prochaines semaines. La façon dont ça va fonctionner, c'est qu'on va avoir 4 dimanches sur la série. On va avoir 1 dimanche de pause. Puis après ça, on va avoir une autre série de 4 dimanches. Et puis, le livre sur lequel on s'est inspiré, le livre sur lequel on va suivre le cheminement, les étapes, c'est celui-là ici. C'est l'Évangile, redécouvrir la puissance révolutionnaire du christianisme. Pourquoi, encore une fois, regarder à l'Évangile de cette façon-là? Pourquoi est-ce pertinent, encore une fois, de regarder le message de l'Évangile? Pourquoi c'est encore pertinent? Souvent, on a l'impression que l'Évangile, c'est la porte d'entrée vers la nouvelle vie. C'est le commencement, l'Évangile. Mais est-ce que l'Évangile est seulement le commencement? On va voir à travers les semaines qui viennent que c'est pas seulement le commencement. Mais l'Évangile, c'est tout. C'est tout ce dont on a besoin. Et c'est là où on doit demeurer. C'est pas seulement la porte d'entrée. C'est la piscine dans laquelle on se baigne. Tout le reste de notre vie chrétienne et aussi tout le reste de l'éternité. L'Évangile est au cœur de tout ça. Vous vous souvenez du témoignage de l'homme que je vous ai parlé la semaine passée? Je vous ai parlé d'un pasteur. Malheureusement, cet homme-là s'est suicidé. Pourquoi qu'il s'est suicidé? Est-ce que vous vous souvenez? Il s'est enlevé la vie. À cause de la honte. Vous savez, dans les dernières semaines, il y a eu le site Ashley Madison qui s'est fait pirater. Et puis Ashley Madison, c'est un site qui permet que les gens s'ouvrent un compte en tout anonymat. Et puis, c'est comme un site de rencontre, mais le but, c'est d'amener les gens à avoir des relations extra-conjugales en restant anonyme, sans que les choses soient apparentes. Le site s'est fait pirater. Ils ont allé chercher tous les noms des propriétaires de compte. Puis après un mois, parce qu'Ashley Madison n'a pas payé la rançon qui était demandée, les noms ont été rendus publics. Et sur cette liste-là, il y avait au-dessus de 400 noms qui étaient des ouvriers dans le ministère à temps plein. Et puis, le nom de cet homme-là était dans la liste. C'était un professeur d'université, c'était un papa de famille, c'était un homme qui était aimé dans la communauté, c'était un homme qui était respecté en termes de qualité d'homme de Dieu. Et puis là, la honte était tellement grande que son nom soit sur cette liste-là, qu'il s'est enlevé la vie. Pourtant, c'est un homme qui baignait dans les Écritures tous les jours de sa vie. C'était un enseignant à l'université, dans un collège de théologie. Est-ce qu'il savait que Dieu l'aimait? Est-ce qu'il connaissait l'Évangile? Il y avait l'information. Il prêchait, il proclamait. Mais la chose qui a douté devant cet événement-là, et c'est sa fille, vous vous souvenez? C'est sa fille qui l'a soulevé, qui l'a mis en évidence. C'est mon père a douté de mon amour pour lui. Il n'a pas cru que mon amour allait être en mesure de surpasser ce qu'il a fait, de passer par-dessus. Mon père a douté que je l'aimais d'une façon inconditionnelle. Sa honte était tellement grande qu'il n'était plus en mesure de voir l'amour. Est-ce qu'on a besoin de se rappeler l'Évangile? Tous les jours de notre vie, c'est facile quand ça va bien. Mais quand les moments difficiles arrivent, quand c'est le temps que notre foi est mise à l'épreuve, c'est là qu'on voit si ces vérités-là sont vraiment inscrites ou non au plus profond de nos cœurs. Si c'est une vérité intellectuelle, religieuse pour nous, ou si elles sont gravées profondément dans nos cœurs. Et c'est là que c'est important. C'est ce qui se passe dans nos cœurs. On l'a vu à travers les dernières séries, le cœur, c'est tout. C'est là où est-ce que les enjeux principaux se situent. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. C'est pas ta tête. C'est pas ta religion, ton dévouement, ton abandon de toi, c'est ton cœur. C'est ça que Dieu désire. On a besoin de se rappeler l'Évangile. Et c'est pourquoi on en commence cette série-là. On veut aller encore plus en profondeur, d'une façon précise. Oui, regardez à la vérité de l'Évangile. Mais est-ce que l'Évangile, c'est juste une vérité? Est-ce que c'est juste de la théologie? C'est une puissance. Il y a deux choses dans les Écritures qu'on dit qui est la puissance de Dieu. Le message de l'Évangile et puis Jésus-Christ lui-même. L'Évangile est une puissance. Elle est vivante. Quand on annonce l'Évangile, quand on vit l'Évangile, il y a une puissance à l'œuvre. Il y a quelqu'un à l'œuvre qui nous dépasse, qui est beaucoup plus grand que nous. Et c'est le Saint-Esprit. C'est vivant, l'Évangile. Et c'est redécouvrir la puissance. Redécouvrir la puissance de l'Évangile. Une puissance révolutionnaire. Qui change des vies, qui transforme. L'Évangile donne la vie. Pour faire passer quelque chose de mort à vivant, faut-tu être puissant? On n'est pas capable de faire ça, personne. Il n'y a personne d'assez puissant pour être capable de faire ça. Le seul, c'est Dieu, Jésus-Christ. Et à travers son Évangile, c'est ce qu'il désire faire. Donc, dans les semaines qui viennent, oui, les vérités, on les connaît. Mais jusqu'où je vis la puissance de ces vérités-là? Jusqu'où j'y goûte? Jusqu'où je l'expérimente? Jusqu'où ces vérités-là sont gravées littéralement dans nos cœurs? Ce qui fait que les événements autour ne les effaceront jamais. Que malgré ma honte, l'amour de Christ à mes yeux va toujours surpasser la plus grande honte que je pourrais avoir. C'est ça l'Évangile. Et c'est ce que Dieu nous appelle, encore une fois, à approfondir. Dans les semaines qui viennent. On espère qu'on va être béni à travers ça. On est sûr qu'on va l'être. Les dimanches matins, on va regarder ensemble aux éléments principaux de chaque chapitre. Puis dans les semaines, les mercredis soirs, les mardis soirs, dépendamment des groupes, vous allez prendre du temps ensemble pour faire un retour, pour creuser encore davantage, pour partager sur ce qui vous a touché, sur les choses que vous avez peut-être des éclaircissements, les choses qui vous ébranlent, les choses qui vous confrontent ou qui vous encouragent. On a le privilège de pouvoir se réunir en semaine. Et c'est là que tout se passe. À travers notre relation les uns les autres, Dieu nous bénit abondamment. Et on a le privilège de faire descendre ces vérités-là dans nos cœurs, avec nos frères, nos sœurs, de nous confronter, d'aller plus loin. Ça nous encourage à porter attention aussi, puis à se souvenir, à méditer sur ce qu'on a entendu le dimanche matin. Je veux vraiment vous encourager à prendre le temps de le considérer sérieusement si vous ne faites pas déjà partie d'un groupe. Puis les responsables ont des questions, des feuilles pour les aider dans leur retour des choses qu'on a vues. Puis pour aller plus loin. J'aimerais qu'on tourne dans Romains, chapitre 12, pour commencer. Vous savez, Romains, c'est tout un livre, hein? Romains joue un rôle assez particulier dans la théologie. On dit que Romain est pour la théologie ce que le piano est pour la musique. Quand tu connais le piano, ben tu as vraiment une vue d'ensemble de la musique qui est complète. Tu vas arriver sur un autre instrument puis tu vas avoir une base que ceux qui font juste jouer du violon n'auront pas. Le piano, là, tu vois l'ensemble de la musique, de la théorie, ainsi de suite. C'est la même chose avec le livre de Romain. Chacun des sujets qu'on voit dans les autres épîtres, ben, on est quelque part, on les retrouve dans Romain, pour la majorité. Romain est vraiment un chef-d'œuvre au niveau de l'Évangile. Les premiers chapitres nous expliquent le salut. Parle justement de ce cadeau-là que Dieu a fait à l'être humain et de toutes ses implications. À partir du chapitre 12, il y a une transition. Maintenant que vous avez vu c'est quoi l'Évangile, que vous avez compris c'est quoi, la puissance de l'Évangile, elle se vit par le Saint-Esprit, en Christ. On a été justifiés. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. C'est pas basé sur nos actions, mais sur tout ce que Jésus-Christ a fait, on a été placé en lui. C'est tout ça que Romains nous explique. À partir du chapitre 12, maintenant, c'est quoi les implications de ça dans vos vies? Comment ces vérités-là se reflètent maintenant dans la vie du croyant? C'est les deux grandes sections de Romains. Et puis, Romains chapitre 12 fait la transition. Verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous, de votre part, un culte raisonnable. Je vous exhorte donc. » Le mot « donc » est vraiment important. Maintenant, basé sur tout ce qu'on a vu avant, donc, voici maintenant ce qui suit. Puis ça dit ici, par les compassions de Dieu. C'est quoi ça, les compassions de Dieu? C'est l'Évangile. C'est tout ce qu'on a vu avant dans l'Épître aux Romains, chapitre 1 à 12. Les compassions de Dieu. Donc, par les compassions de Dieu, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Donc, par la compassion de Dieu, soyez transformés. Comment? Par quoi? Soyez transformés. Soyez changés. Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de votre pensée. Un renouvellement transformé dans quoi? Dans l'Évangile. Donc, par les compassions de Dieu, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, par l'Évangile, dans l'Évangile, dans la compréhension de l'Évangile. Dieu nous appelle à être transformés. L'Évangile nous transforme. Et quand on parle de transformation, de changement, il en a-tu des moyens de changer dans la vie? Des livres sur le changement, il en a-tu? C'est une industrie monstre, le changement. Il y a plusieurs millionnaires qui ont construit leur fortune sur l'industrie du changement. Et quand on parle du changement religieux, il y a deux options. Connaissez-vous ces changements-là, les deux options? Travailler plus fort, ça rentre dans la première catégorie. Et puis l'autre option, changer. Comment on change dans la vie chrétienne? Comment vous faites pour changer? On accepte l'Évangile. La deuxième option, c'est dans l'Évangile. Et c'est deux mondes complètement différents. Deux mondes complètement différents. Le premier changement, essayer plus fort, c'est ce qu'on appelle un changement mécanique. C'est un changement mécanique. Ce sont des changements qui proviennent de l'extérieur. Et la caractéristique de ces changements-là, c'est que c'est la façon, c'est la seule façon qu'on a de changer, de transformer quelque chose qui n'est pas en vie. Dans le livre, il donne un exemple très intéressant. L'auteur sort à un moment donné, puis il voit sa fille avec l'arrosoir de sa mère dans les mains, qui est en train d'arroser son carré de sable. Ça l'intrigue un peu. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il va la voir. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, elle dit, je suis en train d'arroser mon carré de sable. Pourquoi? Ben, parce que papa, il manque de sable, fait que je l'arrose pour qu'il pousse, pour qu'il en ait plus. Parce que maman, quand elle arrose ses plantes avec ça, mais ça grandit. Fait qu'elle veut faire, elle veut plus de sable. Mais est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Du sable, si on veut en avoir plus, c'est quoi le seul moyen qui est à notre disposition? C'est d'en remettre d'autres. C'est un moyen mécanique. Je dois prendre quelque chose de l'extérieur et je dois de façon mécanique, le rajouter, le transformer, le changer. C'est ça qui caractérise le changement de la matière, des choses qui ne sont pas en vie. On doit employer les choses, on doit employer le mécanique. Malheureusement, la plupart des stratégies que nous entendons pour cheminer en Christ se révèlent être, malgré tous ces termes chrétiens, des changements mécaniques. En connaissez-vous des changements mécaniques qui sont véhiculés dans les églises? Plus, prie plus. Faire des efforts plus, prie plus, conforme-toi plus, honore plus le Seigneur, obéis plus. C'est quoi le mot qui revient à chacune de ces choses-là? Plus, 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 plus. Fais, 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 il faut, il faut, il faut. On en a beaucoup parlé dans les dernières années, mais c'est tellement important. C'est tellement important de comprendre cet élément-là. Parce que le changement mécanique, c'est la religiosité, c'est être religieux. Et tout ce que ça fait, la religion, c'est que ça rajoute des choses dans ta vie. C'est tout ce que ça fait. Ça rajoute. Ça alourdit. Bien, plus qu'on a de choses dans notre sac, plus que notre sac est lourd. C'est ça que ça fait, la religion. Ça fait pas autre chose. Et les fruits de ça, les résultats de ça sont dévastateurs. Au lieu de nous attirer vers le Seigneur, qu'est-ce que ça fait? Ça nous éloigne. Ça nous éloigne de Dieu parce que Dieu devient comme un tyran. Ça dépend de toi. Mais c'est mécanique, toutes ces choses-là. Fait que c'est tu rajoutes, c'est toi, là. C'est mécanique. Et la chose qui caractérise ça, c'est que tu fais des changements, tu essaies de changer quelque chose qui n'est pas en vie. C'est mécanique, c'est artificiel. Ajoutons des nouvelles disciplines spirituelles dans nos vies. Hein? On entend ça, grandissez, ajoutez des nouvelles disciplines spirituelles. Vous venez juste donner votre vie au Seigneur, commencez par des petites bouchées. Hein? Allez-y graduellement. Au fur et à mesure que vous allez grandir dans votre vie chrétienne, vous allez être de plus en plus habile à vous maîtriser, à vous contrôler. Quand un athlète débute, et il va par des petites étapes. On n'envoie pas un enfant de 5 ans aux Olympiques, à la course. Ah non! Des petites compétitions, au début, c'est juste pour le fun. On voit s'il y a des aptitudes. Puis après ça, ça devient de plus en plus sérieux. On a tendance souvent à adresser la vie chrétienne de cette façon-là. C'est sûr que si on garocherait tout dessus, et il y en aurait peut-être un peu trop, puis il y aurait peur, puis il se sauverait. On y va graduel. On est doux, on est compatissant, on est plein de grâce, hein? Mais tout ce que ça fait, c'est qu'on ajoute des nouvelles disciplines. Nous donner plus d'argent, participer plus, prier plus, liser plus. On ajoute des nouvelles façons d'agir qui fait contraste avec notre ancienne vie. Les gens sont contents, j'ai donné ma vie au Seigneur, puis la chose sur laquelle ils s'appuient pour dire ça, c'est que maintenant, j'agis différemment d'avant. OK? Mais ton cœur, est-ce que le goût d'agir différemment d'avant, lui? Peut-être que pour l'instant, il est joyeux, il est content. Mais est-ce que la vie chrétienne, c'est toujours joyeux? Est-ce que c'est toujours content? Est-ce que ça va toujours bien dans la vie des croyants? C'est-tu la garantie d'un plan parfait pour ta vie ou est-ce qu'il t'arrivera jamais rien qui va te contrarier, qui va te décevoir, qui va te rendre triste? C'est-tu ça que Dieu nous promet? Non. Absolument pas. À un moment donné, le cœur commence à être fatigué de faire ça. Puis le problème, c'est lorsque tu ne veux pas vraiment faire ces choses, elles deviennent un poids dans ta vie. On a l'impression que Dieu tend vers nous constamment une liste de choses à faire, à accomplir, des rôles à jouer, des choses que l'on devrait faire ou qu'on devrait faire encore mieux. Regarde, Seigneur, je fais déjà tout ça. Tu m'en demandes encore plus. Ouais, mais ce que tu fais, fais-le encore mieux. Il y a de la place à amélioration toujours. Sinon, il va nous punir. On devient fou. Parce que l'on se demande, est-ce que j'en ai fait assez pour avoir son approbation? À la longue, on développe du ressentiment envers Dieu parce qu'il garde, il nous garde prisonniers pour faire des choses qu'on ne veut pas vraiment faire à l'intérieur de nos cœurs. Puis il nous menace de damnation si tu ne fais pas les choses correctement. Ça, c'est du changement mécanique. C'est le fruit du changement mécanique. C'est important qu'on en parle parce que la nature humaine, elle est là. Faire les choses par nous-mêmes, c'est là que ça nous mène, par nos propres forces. Son contraste maintenant. Mécanique, c'est mort. Son contraire, c'est la vie. Des exemples de ce qui est vivant puis qui grandit? Une idée? Une plante, un arbre. Les Écritures, ils sont remplis d'exemples, d'illustrations. Puis vous remarquez, c'est toujours des choses qui sont vivantes. Ils parlent d'arbres, de plantes, de vignes. C'est tout le temps organique. Il y a une raison pour ça. Parce que le contraire de ce qui est mort, c'est ce qui est vivant. Et les plantes sont vivantes. Et quand on devient croyant, on passe de la mort à la vie. Et quelque chose de vivant ne peut pas changer comme quelque chose qui est mort, qui est mécanique. C'est deux mondes complètement différents. Quand l'arbre grandit, le fruit qui apparaît, c'est pas quelqu'un qui est arrivé avec une brocheuse puis qui l'a mis, là. Le fruit, il pousse parce qu'il est à l'intérieur de l'arbre. Il est là. Il est vivant. C'est un fruit naturel. Ça se produit, point. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de dire « Le fruit est apparu exactement cette journée-là, à cette heure-là. » Assisez-vous à côté d'un arbre, puis attendez de dire le moment où ce que cette pomme-là est venue au monde. C'est... Oui?
Après que la fleur est tombée.
Après que la fleur est tombée. On peut dire ça. Mais ça grandit, Ça, on dirait qu'il se passe rien, mais il se passe tellement d'affaires dans ces petites affaires-là. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que l'arbre, il se concentre? Il faut que je fasse des pommes, il faut que je fasse des pommes, il faut que je fasse des pommes. Oh non, j'ai pas encore réussi à faire des pommes. Faut-tu que je fasse des pommes? Il se concentre-tu sur le fait de faire des pommes, l'arbre? Non. Il se nourrit. Il se nourrit. Il cherche ce qu'il a de besoin. Il a besoin de lumière, il a besoin d'eau, il a besoin des nutriments dans la terre. Puis il se concentre sur ce qu'il nourrit. Puis les fruits apparaissent. Est-ce pas un beau parallèle avec la vie chrétienne? Ce qui nourrit le croyant, c'est quoi? C'est l'Évangile. C'est l'Évangile. L'arbre va produire des fruits parce qu'il est en vie. Tout commence. Tu commences à désirer Dieu et la sainteté. C'est le type de changement que produit l'Évangile. Et c'est ce dont Paul parle quand il dit, donc, par la compassion de Dieu, au verset 1. Par la compassion de Dieu. En étant dans l'Évangile, en s'imprégnant dans l'Évangile, ça fait des choses dans ton cœur. Ça crée un désir. Ça crée un amour pour Dieu. Et ça fait toute la différence. Le contraste entre la religion et l'Évangile est énorme. Il y en a un qui est mort, il y en a un qui est en vie. Et la façon de changer l'un et l'autre est complètement différente. Mais notre nature humaine, est-ce qu'elle est en vie? Elle est morte. Elle désire changer. Elle désire changer. Mais la religion ne fonctionnera jamais. Puis pour comprendre pourquoi la religion ne changera jamais, il faut revenir à Adam et Ève. Adam et Ève dans le jardin. Le péché, c'est un péché de quoi? En réalité. Oui, ils ont pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en réalité, le péché, c'était quoi? La désobéissance? Ah, ils ont désobéi, ils ont péché. L'indépendance, l'orgueil. Manque de confiance. Ça a un nom, tout ça. Une grande catégorie. On l'a vu dernièrement. Notre dernière série qu'on a faite. Le premier péché qui a été commis, c'est un péché d'idolâtrie. Et ça inclut l'orgueil. Parce que au cœur de l'idolâtrie, il y a de l'orgueil tout plein. Romains 1 nous dit que l'homme s'est détourné du Créateur pour se tourner vers la création. Ils ont adoré plus la création qu'ils ont adoré le Créateur. Et quand on parle d'adoration, on parle d'idolâtrie. Parce qu'un idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. C'est tout ce que tu élèves dans ta vie au rang de divin. Donc, que tu vas servir, que tu vas aimer. C'est quelque chose qui va contrôler tes actions, qui va contrôler tes désirs. C'est quelque chose que tu dis, si j'ai pas ça, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Si j'ai pas ça, je ne serai jamais heureux. Si je ne change pas, si je fais pas plus d'argent dans ma vie, le bonheur m'est inaccessible. Si je réussis pas à finir premier à cette compétition-là, ma vie vaut plus la peine d'être vécue, honte sur moi, j'abandonne tout. Si j'ai pas cette promotion-là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ça me l'apprend. Si je change pas mon auto aux 2-3 ans, de quoi je vais avoir l'air? On peut en mettre, on peut en mettre, on peut en mettre. Tout ce que nos cœurs s'accrochent et qui disent, si j'ai pas ça, ma vie ne vaut plus la peine. Je suis sans valeur. C'est ça l'idolâtrie. Si on veut creuser encore davantage, je vous invite Écoutez la dernière série qu'on a fait, où est-ce qu'on a pris plusieurs mois à regarder ces choses-là en détail. C'est central. Et on va y revenir encore et encore et encore et encore, parce que c'est tellement central dans notre compréhension de la vie chrétienne et dans tout notre cheminement de sanctification dans notre vie et dans notre relation avec le Seigneur, de comprendre nos cœurs, de comprendre cet aspect-là que l'homme, l'être humain, est un adorateur. C'est pas qu'il a l'option d'adorer, non. L'être humain ne peut pas s'empêcher d'adorer. Il est adorateur. C'est pas une question, « Oh non, moi, j'en ai pas de Dieu dans ma vie. » C'est impossible. C'est impossible, ça fait partie de nous. Donc, Adam et Ève, ils se sont dit, « Si je mange pas ce fruit-là, je serai pas heureux. Ça va me le prendre. Ça me le prend. » Le fruit est devenu plus important que Dieu lui-même. Et ils ont été prêts à mettre Dieu de côté pour obtenir ce que le fruit leur promettait d'avoir. C'est ce qui s'est produit. Ils ont décidé d'élever au rang de Dieu dans leur vie quelque chose d'autre que Jésus. Ils ont vu ça essentiel pour la suite des choses. C'est quoi la première chose qu'ils ont réalisé Adam et Ève quand ils ont croqué dans le fruit? Qu'ils étaient nus. C'est quoi? Ils ne savaient pas avant? Pourquoi? Pourquoi ils ont réalisé que, hein, on est tout nus? Puis ils ont eu quoi? Ils ont eu honte. Puis ils sont allés se cacher. Mais c'est quoi, là? Ils ne savaient pas avant? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qui a fait en sorte qu'ils ont vu qu'ils étaient nus et que ça les a dérangés? Parce qu'avant, ils étaient nus aussi, puis ils savaient. C'est juste que ça ne les dérangeait pas. Ils ne portaient même pas attention à ça. Avez-vous une idée? Je vais juste retrouver mes notes pour être sûr, parce qu'il y a une citation. Les pères de l'Église l'expliquent très bien. C'est que, avant leur péché, Adam et Ève avaient été vêtus de l'amour et de l'acceptation de Dieu. Ainsi, leur nudité ne les gênait pas. S'étant maintenant dévêtus de l'amour et de l'acceptation de Dieu, ils étaient en proie à la peur, à la honte et au sentiment d'être coupables et exposés. Avant, Adam et Ève étaient remplis de tout ce dont ils avaient besoin. Il n'y avait pas de honte. Ils étaient complets. Ils étaient vêtus de l'amour et de l'acceptation de Dieu. Dieu les acceptait inconditionnellement de la façon dont ils étaient. Et entre eux, c'était la même chose aussi. Mais une fois qu'on s'est dévêtu de l'amour et de l'acceptation inconditionnelle de Dieu à notre égard, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que Adam et Ève ont recherché? Ils ont été exposés à la honte, au sentiment d'être inadéquat, au sentiment d'être insuffisant. La peur les a pris. Et là, ils ont considéré leur nudité d'une façon complètement différente qu'ils la voyaient avant, parce qu'il leur manquait quelque chose d'essentiel. Et ils ont fait quelque chose pour essayer d'être trouvés acceptables, enlever la honte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des feuilles. Ils ont été se couvrir. Ils ont été se couvrir. On cherche par toutes sortes de moyens de couvrir cette honte qui nous habite. Parce que sans Christ, on n'est pas dans l'amour et dans l'acceptation inconditionnelle de Dieu. Et il y a quelque chose dans notre âme qui manque. Il y a une peur, il y a une insécurité, il y a une honte qu'on essaie de couvrir, d'habiller par toutes sortes de façons. Il donne un exemple intéressant dans le livre. Imaginez-vous que vous êtes une somnambule. Puis aux États-Unis, il y a des Walmart, Super Walmart, là, qui sont ouverts 24 heures sur 24. Vous êtes somnambule, puis là, vous vous réveillez tout nu au beau milieu du Walmart à 3 heures du matin. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en profiter pour faire vos emplettes? Ah, j'avais justement besoin de lait. Il est où le département de linge? Hein? La madame ne sera pas contente. On essaye de se couvrir. Hein? La honte, le sentiment d'avoir l'air de toutes sortes de façons, c'est sûr que ça va se retrouver sur Facebook ou sur YouTube quelque part. C'est immanquable aujourd'hui. Tout le monde a des cellulaires et des caméras. C'est, ouais. Mais le sentiment d'être jugé, d'être regardé, d'être inadéquat, de ne pas être à la hauteur, c'est des choses qui font partie de nos vies, de tous les jours, et qu'on essaie de couvrir par toutes sortes de moyens. On essaie toujours de se démarquer des autres, d'avoir quelque chose de plus, d'être au-dessus des autres. Ça peut être sous toutes sortes de formes. Je suis meilleur qu'un autre dans tel aspect. On se compare tout le temps. Des fois, c'est parce que tu as été à une école spéciale. Des fois, c'est parce que tu as une job et tu as un certain salaire. Des fois, c'est parce que tu as des capacités physiques que d'autres n'ont pas, fait que tu vas te garrocher là-dedans et ça devient ton identité. Les options sont infinies. On devient des bourreaux de travail. On devient des gens constamment à la recherche. Ça se produit dans tous les domaines. Ça peut être la religion, le dévouement pour l'Église, le dévouement pour Dieu. Mais à ce moment-là, quand on utilise la religion, quand on utilise Dieu pour aller chercher la chose qui nous démarque, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est-tu en train de servir Dieu par désir? C'est-tu Dieu qu'on sert? Ben non, on se sert nous-mêmes parce qu'on utilise Dieu pour obtenir quelque chose de lui ou pour éviter les punitions et les bénédictions. Moi, je veux une vie bénie de Dieu. Donc, je vais faire ça pour lui. Comme ça, il ne pourra pas me dire. Il va être obligé de me bénir. Regarde, Seigneur, tout ce que je fais pour toi, t'es poigné là. Faut que tu me le donnes. C'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être pas dans notre tête, on n'a pas ces mots-là, mais nos cœurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Notre cerveau va rentrer ça dans une belle boîte acceptable, puis va te mettre des beaux mots, une belle attitude, ça va paraître très bien. Mais en réalité, ce que nos cœurs désirent, c'est utiliser Dieu et se servir nous-mêmes. C'est ça qui se passe. On se garoche dans toutes sortes de choses. On se garoche dans toutes sortes de choses. Pour couvrir notre honte. On est toujours en compétition. On recherche le sentiment d'être digne. Les gens essaient d'avoir une valeur aux yeux de Dieu. De se prouver. Ils veulent quelque chose de lui. Puis c'est épuisant, vivre comme ça. Tout ce que ça produit, c'est qu'on part dans un cycle d'orgueil puis de désespoir. Parce que peu importe ce qu'on fait pour se sentir meilleur qu'un autre, quand ça nous réussit, qu'est-ce qui arrive? On devient fier. On tombe dans l'orgueil. Ça nous apporte encore plus à pécher, ça nous amène encore plus loin de Dieu. Ça peut nous mener à la violence, l'impatience, l'intolérance, l'esprit de jugement, puis bien d'autres choses. De l'autre côté, quand on ne réussit pas, on se sent inférieur, on désespère. Notre sentiment de nudité et d'insécurité grandissent. Cela mène seulement à des efforts redoublés à dépasser les autres, à la jalousie, à la haine des autres qui nous entourent. Notre désespoir crée un vide qu'on essaie de remplir par les convoitises de la chair. Quand Dieu n'est pas capable de me combler, notre cœur se tourne vers d'autres choses. Mais c'est un mensonge que Dieu n'est pas capable de nous combler. C'est qu'en réalité, tu ne cherches pas à ce que Dieu te comble vraiment. Tu essaies d'obtenir quelque chose de lui et ça ne marche pas à tes yeux. Le contraste, c'est que l'Évangile ne nous dit pas de changer dans un but de mériter l'approbation de Dieu, mais de changer parce que nous avons déjà son approbation. L'Évangile fonctionne complètement à l'inverse de ce que la religion le fait. Parce que tu es accepté de Dieu, parce que tu es aimé de Dieu, voici maintenant tes actions. Voici maintenant ton comportement. Mais oublie jamais qui tu es. Oublie jamais ce que tu as en premier. Par la suite, regarde à tes actions. Et c'est comme ça que l'Évangile fonctionne. Donc, à la lumière de l'Évangile, voici maintenant. L'Évangile révèle la beauté de Dieu d'une façon que nous commençons à le désirer, lui, et non d'obtenir des choses de lui. On le désire, lui. Vous savez, l'amour est toujours une réponse. L'amour, elle ne peut pas être exigée. Elle ne peut pas être obligée, commandée. Si je dis à mon gars, aime ta sœur, c'est-tu instantané parce qu'il est obéissant qu'il va aimer sa sœur? Ah, il va peut-être commencer à être gentil avec elle, mais ça veut-tu dire qu'il l'aime et que dans son cœur, il veut vraiment son bien? Ça ne veut pas dire ça pantoute. Et puis, cet élément-là, que l'amour ne peut pas être commandé, c'est un des grands dilemmes de Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37, on peut le lire, on le connaît bien. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, c'est quoi le plus grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Ça, c'est un commandement. Dieu nous dit, « Aime ton Dieu. » On peut-tu obliger quelqu'un à aimer l'autre? Alors, pourquoi Dieu nous dit que c'est un commandement? « Tu te dois de m'aimer. » Tout un dilemme, hein? Comment on crée l'amour pour Dieu? C'est ça la question. Dieu nous demande de l'aimer. C'est important. C'est central. C'est le plus grand des commandements. Aime ton Dieu. Il nous le demande. OK, Seigneur, je veux être obéissant. J'essaye fort. Mais c'est drôle. Plus que j'essaye, moins je suis capable. Mais semble, je prends le chemin inverse. Opposé un peu, je commence à être fatigué et à être tanné. Comment créer l'amour pour Dieu si c'est si important? Ouais. Crois que Dieu t'aime. C'est très important. Parce qu'on a dit que l'amour est toujours une réponse à quelque chose. L'amour est toujours une réponse à ce qui est aimable, à ce qui est beau, à ce qui est bon. La première fois que tu as rencontré ta femme, tu n'es pas tombé instantanément comme ça en amour avec. Peut-être qu'en la voyant, tu as vu quelque chose en elle qui a attiré ton attention. Il y a quelque chose qui est né à ce moment-là. Tu as vu quelque chose en elle, d'aimable, de beau. C'était mécanique, pas mal. Regardez à vous, là, s'il vous plaît. Là. Regardez pas. Mais quand on l'a vu pour la première fois, moi, ça m'a fait ça. On était à NBBM. Et puis, quand on a jasé ensemble pour la première fois, il y a quelque chose que j'ai vu en elle qui m'a intrigué, qui a éveillé en moi le désir de passer plus de temps avec elle. Et plus qu'on a passé du temps ensemble, bien plus que cet élément-là a grandi. plus que cet amour-là s'est approfondi. L'amour est toujours une réponse à ce qui est aimable, à ce qui est bon. Et c'est la même chose avec Dieu. Dans Jean, 1 Jean, ça nous est expliqué, 1 Jean 4, 19, ça nous est expliqué, c'est clair. Un passage qu'on connaît bien. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est possible d'aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et l'Évangile a fait quoi? Elle nous expose les beautés de Dieu. Elle nous expose les grâces de Dieu pour qu'en nous naisse l'amour pour Dieu. Quand on réalise à quel point nous sommes aimés, et c'est l'Évangile qui nous explique à quel point nous sommes aimés, c'est l'Évangile qui nous explique la profondeur de son amour, la grandeur de sa personne. Et quand on se plonge dans cet évangile-là, quand on nous expose cet évangile-là, qu'est-ce que ça fait en nous? Ça crée de l'amour. Ça crée quelque chose qui est vivant. Ça crée pas quelque chose qui est artificiel. Quand nos yeux s'illuminent à la beauté de l'évangile, ça crée de l'amour. Et c'est ce qu'on voit dans Éphésiens. C'est la prière de Paul dans Éphésiens. Ouvre les yeux de leur cœur. Qu'ils comprennent ton amour. À quel point tu les as aimés. Pour qu'ils soient remplis de ta plénitude. C'est essentiel. L'Évangile révèle la beauté de Dieu d'une façon que nous commençons à le désirer. L'Évangile révèle la grâce de Dieu pour qu'ainsi nous commençons à l'aimer, lui. L'amour pour Dieu découle de l'expérience de l'amour de Dieu. Et puis, dans Jean 15, verset 5, Jésus dit « Demeurez en moi, restez attachés à moi ». On a eu le privilège d'étudier ce passage-là beaucoup cet été dans les réunions de prière. Ça a été des moments bénis et on a vu qu'un disciple, c'est quelqu'un qui demeure en Dieu, en Jésus, qui reste attaché en lui, qui demeure dans son amour. Et le mot « demeure », là, rester, c'est vraiment y établir sa maison. Établissez votre maison, votre demeure dans l'amour de Jésus. Et vous porterez beaucoup de fruits. C'est ce que le passage nous dit. Vous voulez porter du fruit, demeurez dans mon amour. Ça dit pas, vous voulez porter du fruit? Concentrez-vous sur les fruits. Puis essayez fort. Rajoutez des disciplines spirituelles dans votre vie pour avoir des fruits. Lisez plus, priez plus, donnez plus. Servez à l'épuisement, jusqu'au burn-out si vous voulez. Scrapez vos familles. Laissez vos femmes à la maison, puis venez à l'église. Étudiez, servez. C'est-tu ça que Dieu veut? Portez plus de fruits. Ça ne fera pas des fruits, ça. Demeurez dans mon amour. Là, on va avoir des fruits. Ça découle d'une expérience avec Dieu, d'un moment intime avec lui. Le fruit sera naturel. C'est normal de voir des roses après un rosier. On n'a pas besoin de personne d'aller agrafer la rose pour que nos rosiers fassent des roses. C'est normal. On n'aura pas besoin de focusser ou de réfléchir à porter du fruit. Il sera la conséquence naturelle de cette relation intime avec Dieu. L'Évangile nous expose ces vérités-là. C'est essentiel de comprendre les choses qu'on a vues ce matin. C'est essentiel de comprendre le contraste entre la religion, le mécanique, ce qui est mort, et l'Évangile qui est vivante. C'est très important. C'est à la base de tout ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. C'est très important de le comprendre. C'est à force de découvrir la beauté de Dieu que l'Évangile nous révèle, que nos cœurs vont s'attacher à lui et que les fruits vont naître de façon naturelle. Et c'est ce que la parole de Dieu nous explique. Et elle met un emphase tellement grand sur ces choses-là. C'est pour ça qu'on prend le temps, encore une fois, de s'arrêter et de regarder à cet Évangile-là. Dans les semaines qui viennent, on va regarder une prière en quatre parties. On va prendre le temps de regarder chacune de ces parties-là. Et ces vérités-là, ils vont être vraiment le fondement de ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Prendre le temps de considérer à quel point Dieu nous aime d'une façon inconditionnelle, que tout est accompli en lui, que Dieu est tout suffisant pour que je sois heureux. On va retoucher à beaucoup de choses, mais elles sont tellement importantes pour qu'on découvre puis pour qu'on vive la puissance de l'Évangile. Demeurer en Jésus-Christ, que nos cœurs aient un amour sincère, pas juste mécanique, obligé pour le Seigneur. Prenons le temps dans la prière. Seigneur, que ton Évangile est beau, que ton Évangile est grand. Seigneur, on ne cessera jamais d'en découvrir la profondeur. On ne cessera jamais, Seigneur Dieu, d'en découvrir les beautés. Ton Évangile, Seigneur, nous révèle ta personne, nous révèle ta grâce, nous révèle ton amour. On comprend, Seigneur Dieu, que c'est toi qui es venu nous chercher. C'est toi, Seigneur Dieu, tout au long de notre vie passée, qui nous a couru après pour venir nous sauver, pour venir nous chercher. Ce n'est pas nos cœurs, Père éternel, qui te cherchaient. C'est toi qui nous courais après. Père éternel, merci. Merci pour cet Évangile. Merci pour ta parole, Seigneur, à travers laquelle tu te révèles. On peut comprendre, Seigneur, on peut goûter à quel point tu nous aimes. Et Seigneur Dieu, laisse cet amour nous envahir, nous transformer. Qu'on en soit, Seigneur Dieu, tous et chacun éblouis. Qu'on n'en revienne pas, Seigneur Dieu. Attache nos cœurs à toi, Seigneur. On a besoin que tu ouvres les yeux de nos cœurs sur les profondeurs de cet Évangile. Attache nos cœurs à toi, Seigneur. Libère-nous de cette religion. Libère-nous, Seigneur Dieu, de ce qui est mort, de tout ce mécanique, Seigneur Dieu, dans laquelle notre chair nous emporte, Père éternel. Ces automatismes que nous avons, Seigneur Dieu, trop souvent, de faire les choses pour toi, ou, Seigneur Dieu, de faire les choses pour obtenir des choses de toi, parce qu'on désire se préserver, on désire, Seigneur, améliorer notre condition, peu importe, Père éternel, l'idole qu'on sert. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, sur ces enjeux dans nos vies, et attache, Seigneur, attache nos cœurs à toi, d'une façon vraie, d'une façon sincère, pour qu'on te serve, Seigneur Dieu, simplement parce qu'on te désire, toi. En réponse, Seigneur Dieu, à tout ce que tu as fait pour nous, à ce si grand amour, à cette si grande grâce que tu nous as fait. On ne méritait pas, Seigneur, ce que tu nous as donné. Mais tu nous l'as donné par amour, alors qu'on était encore tes ennemis. Merci, ô Éternel, que ces vérités descendent dans nos cœurs. Bénis ce temps qu'on va avoir ensemble, ce temps de communion fraternelle, Père éternel. Bénis le reste de cette journée, Seigneur, sois avec chacun d'entre nous, Père. Au nom de ton Fils qu'on te prie, qu'on te demande ces choses. Amen.